Alors voici une histoire qui nous est racontée, mais ce n'est pas un conte de fées. Dans les contes de fées, d'habitude, il y a des bons et des méchants, on les reconnaît assez bien. En général, les fées, c'est des gens qui veulent du bien. Puis les méchants, ça peut être une sorcière, ou bien, voilà, on le voit souvent dans l'apparence, quand on est bon, on est méchant. Et puis souvent, on veut du bien pour les bons, et puis on veut chercher à rattraper les ennemis, et puis à les mettre en prison, ou alors à les tuer, selon. Eh bien, dans notre histoire, c'est tout le contraire. C'est un récit biblique qui essaye de nous montrer comment Dieu nous aime à travers les histoires du peuple d'Israël et comment ce peuple est témoin de son amour. On a souvent une mauvaise image du Dieu de l'Ancien Testament, et pourtant ce Dieu est unique, c'est le même, hier, aujourd'hui et demain, et Jésus est venu simplement nous en révéler l'amour inconditionnel qui existe déjà dans l'Ancien Testament. On a l'histoire d'un chef de guerre. Alors, c'est peut-être des réalités qui vous parlent, à vous qui êtes militaires, Claire et Frédéric. Ce chef de guerre va être guéri avec un certain nombre d'étapes. Il ne suffit pas que le prophète accomplisse la guérison. Il faut d'une part quelqu'un pour le faire connaître, et d'autre part, il faut que le malade accepte de faire ce qu'on lui demande. Et on se rend compte que les personnages les plus importants ne sont pas les personnages principaux. Ce n'est pas ce qu'on croit. Il y a deux rois pourtant, hein. On va entendre parler de deux rois, mais ce n'est pas eux les personnages les plus importants. Les personnages les plus importants, eh bien, c'est la jeune fille et les serviteurs. Des personnages qui sont comme des articulations qui rendent possible le mouvement vers la vie nouvelle. La jeune fille était sans doute, peut-être comme Élise, ton âge à peu près. À cette époque-là, on faisait travailler les enfants, ben oui. Surtout ceux qui étaient en fait des esclaves, ceux qu'on avait emmenés de force lors d'une invasion. Mais alors elle m'étonne, cette jeune fille, parce qu'elle est prisonnière, obligée de servir la femme de Naaman, ce chef de guerre, et on dirait qu'elle ne lui en veut même pas. Elle pourrait quand même avoir du ressentiment, de la haine même, et non, elle lui veut du bien. Elle voudrait qu'il guérisse. Elle va parler du prophète à sa maîtresse, et j'en conclus que la foi de cette jeune fille était plus forte que tout ce qu'elle avait perdu. Naaman, lui, il est lépreux. La lèpre, c'est une maladie de la peau qui ne se guérissait pas à l'époque, c'est une maladie contagieuse. Et en fait, il y a quelque chose d'encore étonnant, c'est que normalement, ces personnes-là sont mises à l'écart. Le texte du Lévitique dans l'Ancien Testament dit très clairement, si on diagnostique une lèpre sur quelqu'un, il faut vraiment qu'il vive à l'écart, qu'il n'ait pas de contact. Et moi, je me dis, c'est quand même bizarre, parce qu'il dirige des hommes, il aurait dû s'isoler. En tout cas, la jeune fille dit qu'il faut qu'il aille trouver le prophète qui est en Samarie. Ce prophète, c'est le successeur du prophète Élie, c'est Élisée. Et alors, une autre surprise, c'est que cette jeune fille le dit, mais en plus, on la croit. Vous rendez compte? Est-ce qu'on te croit tout le temps, Valentine, quand tu dis quelque chose? Et toi, Élise, est-ce qu'on te croit tout le temps? Pas forcément, hein. Mais moi, je peux te dire que même les femmes, dans la Bible, quand elles disent « Jésus est ressuscité », on ne les croit pas. Donc ça, c'est quand même un miracle, hein, qu'on croit cette jeune fille. Alors, Naaman, il retourne dans le pays qu'il vient d'envahir quand même. C'est quand même un pays ennemi. Donc il pourrait être combattu, il pourrait peut-être risquer sa vie. Non, il y va pour se faire soigner. Comme quoi, l'envie de guérir est plus fort presque que la bataille qu'il a livrée. Sa maladie est un handicap, mais on se rend compte que même si c'est un chef de guerre qui a des batailles, des victoires, eh bien, il n'est pas heureux. Alors, j'aimerais juste m'arrêter un instant là-dessus. Être croyant, c'est savoir que le bonheur ne vient pas uniquement de ce qu'on possède, de nos compétences, de notre métier, de tout ce que nous faisons avec nos propres forces, nos propres capacités. Même si, évidemment, ça nous donne satisfaction et ça nous donne suffisamment de confiance en nous-mêmes, qui est indispensable pour vivre. Mais il y a un bonheur qui touche nos profondeurs, qui touche notre cœur et qui ne vient pas de nous ni des événements extérieurs. C'est peut-être cela qui a tenu cette jeune fille. Elle a tout perdu, sa maison, sa famille, ses amis. Aujourd'hui, je me suis dit, quel équivalent on pourrait donner? On pourrait dire qu'elle a même perdu son téléphone portable. Imaginons qu'on perde notre téléphone portable. C'est quand même assez catastrophique parce que maintenant, on met tout dessus. Les contacts, l'agenda, les comptes bancaires, les billets de train. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a comme confiance dans ce petit objet, vous imaginez? Mais la jeune fille n'a pas perdu la foi, et la foi, ça ne tient pas en un téléphone portable. La jeune fille n'a pas perdu la relation avec ce Dieu d'amour, et l'avantage de ce Dieu d'amour, c'est qu'il accompagne tous ceux qui désirent sa présence, même sans téléphone portable. La jeune fille met à part sa haine pour l'ennemi et lui veut du bien. Même dans l'Ancien Testament, il y a des comportements qui montrent qu'on veut du bien à son ennemi. Naaman désire guérir. Alors, la lèpre, eh bien, c'est sur la peau et ça se voit. C'est souvent très laid. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on voit quelqu'un qui a la lèpre? On se dit, oh là là, j'ai pas du tout envie de l'approcher. Parce que la peau, c'est notre enveloppe, c'est l'enveloppe de tout notre corps. Elle est indispensable à notre vie. C'est notre protection. Et cette semaine, j'étais dans la rue et je croisais des gens et je me disais, en voyant certaines personnes, je me disais que ces personnes avaient dû prendre beaucoup de temps pour s'occuper de leur apparence. Notre apparence nous importe parce que c'est par là que nous sommes jugés. C'est par là que nous nous reconnaissons les uns les autres aussi. C'est par là aussi que nous montrons que nous sommes en fête, comme aujourd'hui où nous mettons de beaux habits. C'est la fête. Oui, mais ça ne suffit pas. Je me disais aussi que si nous prenions chacun et chacune autant de temps pour s'occuper de notre cœur, je pense que le monde irait bien mieux. Notre vie en serait transformée. Parce que notre cœur, c'est l'essentiel de notre vie, nous dit Jésus. C'est le lieu où l'on aime et où on reçoit l'amour des autres. C'est un lieu où secret, qui n'appartient qu'à nous-mêmes, où on reçoit l'amour de Dieu aussi, l'amour de Jésus. C'est dans la profondeur de ce que nous ne voyons pas que la vérité de notre être est connue de Dieu. On peut bien essayer de soigner notre apparence, de se mentir à soi-même, aux autres et à Dieu. Non, on ne peut pas mentir à Dieu. Lui connaît nos cœurs et nous montre que le royaume est un chemin de vérité. La vérité en Jésus-Christ rend libre. Le prophète va indiquer à Naaman comment trouver la guérison, lui qui est pourtant son ennemi. Qu'est-ce qui relie les deux hommes? Qu'est-ce qui relie le prophète et Naaman? Pourtant, ils ne se voient même pas. Eh bien, ce sont deux êtres humains, créés par Dieu. Même si Naaman n'est pas du même peuple et n'est pas de la même croyance. Et la guérison dans la Bible, il y en a beaucoup, des guérisons, cela montre la vérité de notre Dieu qui se révèle libérateur. Libérateur pour le peuple d'Israël et libérateur à travers Jésus-Christ, pour tous. Mais la question, c'est le voulons-nous être libérés? Alors il reste une dernière étape, celle de l'acceptation. Naaman, il est furieux. Il a failli repartir chez lui parce qu'il est furieux de la manière dont il a été reçu par le prophète Élisée. Le prophète n'est même pas sorti de chez lui. Lui, il imaginait qu'il y aurait tout un décorum et tout ça. Naaman est orgueilleux. Il a l'habitude d'être obéi et non d'obéir à des instructions, surtout quand elles lui paraissent trop simples. Parce qu'en fait, ce que demande Élisée, c'est que lui-même aussi soit partie prenante. Il a aussi quelque chose à faire. Mais Naaman considère qu'on le méprise, alors il méprise lui-même le prophète et il veut rentrer chez lui. Et c'est à ce moment-là que les deuxièmes acteurs entrent en jeu. Les serviteurs. Alors les serviteurs, on ne connaît pas leur nom, non plus qu'on ne connaît pas le nom de la jeune fille. Ils ont suivi quand même Naaman, ils ont fait toute cette route avec lui, ils ont peut-être envie de ne pas avoir fait ce chemin pour rien. Et ils arrivent quand même à prendre une autre position que leur maître, ils se démarquent de lui. On a discuté avec Claire et Frédéric de l'importance de donner des ordres qui peuvent être obéis, qui peuvent être respectés. Et puis toute la question de la désobéissance, notamment quand on a des histoires comme en France, des drames comme la Deuxième Guerre mondiale, à quel moment est-ce qu'il faut désobéir ou pas. En tout cas, les serviteurs, ils arrivent à se démarquer de leur maître. Mais ils sont habiles, parce qu'ils ont du bon sens et ils vont flatter Naaman. Ils vont lui dire, on sait bien que tu es capable de faire des très grandes choses et tu les aurais accomplies si le prophète t'avait demandé de faire des très grandes choses. Alors ça, c'est rien pour toi. Et ils arrivent à faire changer Naaman de position, d'avis. Naaman se décide, il se plonge dans l'eau cette fois. Et il se retrouve purifié et guéri. Il retourne vers Élisée en disant, « Maintenant je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, sinon en Israël. » Alors, l'orgueil peut empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Orgueilleux, nous le sommes tous, plus ou moins. Il y a des fois, ça se voit plus. Quand on voit les deux chefs de guerre au Soudan, on se dit, peut-être, mais on ne sait pas. Je crois que le plus important dans l'orgueil, c'est d'en avoir conscience. C'est de le savoir pour essayer de le calmer un peu des fois et passer par-dessus. Parce que parfois, le fait de vouloir s'en sortir tout seul, nous empêche d'accepter ce que Dieu veut nous donner. Son amour, sa libération, sa guérison, sa paix. C'est ce que signifie le baptême. Ce n'est pas une purification, mais c'est une acceptation, le baptême. C'est dire oui à l'amour de Dieu, à sa grâce et à son pardon. Le baptême est l'acceptation que nous ne serons jamais parfait, jamais pur, mais que nous pouvons recevoir cet ajustement de Dieu. Nous pouvons tendre à être un peu mieux quand même. Et en fait, être ajusté à Dieu, c'est lui qui nous rend juste. Nous pouvons être ajustés à lui, à nous-mêmes et aux autres, et cela grâce au pardon. Parce que le pardon, c'est une clé unique que Jésus nous donne, unique et difficile. Ça prend du temps. Mais elle nécessite que nous mettions notre orgueil de côté pour nous en remettre à Dieu et que ce soit lui qui nous aide à cheminer vers le pardon. Être chrétien, c'est accepter de recevoir cet amour gratuit de Dieu qui nous accueille tel que nous sommes. Et ça, recevoir, les enfants sont en général plus doués que nous, les adultes, pour cet exercice. Alors oui, Valentine a eu envie de recevoir quelque chose et peut-être que tout à l'heure, elle osera nous le dire, peut-être. Tu nous diras pourquoi tu as envie de te faire baptiser. En tout cas, je souhaite à Valentine de toujours être à l'écoute de ce Dieu qui nous aime et qui t'accompagnera tous les jours. Amen.